Réplique Que peut l'école avec Jean-Michel Blanquer et Augustin Dumière. Augustin Dumière est professeur de lettres classiques. En 2009, il a fait paraître un livre écrit en collaboration avec Marion van Rentergem et dont le titre annonce « La belle couleur, Homère et Shakespeare en banlieue ». Cette année, il publie un petit fonctionnaire. Le petit fonctionnaire en question, c'est lui. Et il fait face, en ce moment même, dans un studio de Radio France, au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, profitons-en. Qu'avez-vous à dire à votre ministre de tutelle, Augustin Dumière? Quel supplique ou quel conseil souhaitez-vous lui adresser?
D'abord, merci de m'avoir mis en situation de pouvoir discuter avec mon ministre de tutelle. Je crois que aujourd'hui le poste qu'occupe Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est un des postes les plus importants dans la société française aujourd'hui, que les attentes par rapport à son ministère sont énormes. Les attentes de la société qui s'interroge sur ce qui reste des notions de république et de laïcité qui apparaissent comme pour beaucoup d'élèves, notamment comme des notions sans contenu, vides, une attente de la part des familles qui souvent sont inquiètes devant l'état du système éducatif, d'élèves, et moi je peux en parler, je pense assez bien, puisque depuis 20 ans j'enseigne dans un quartier où les élèves ont l'impression quand même que même s'ils y consacrent beaucoup d'efforts, les métiers les plus gratifiants sont réservés à certains, toujours eux-mêmes, et aux professeurs qui aussi, je pense, ont beaucoup d'attentes par rapport à ce nouveau ministre, c'est-à-dire que nous nous sommes pliés de plus ou moins bonne grâce à différentes réformes et que c'est vrai que c'est un métier pour lequel nous attendons aussi une certaine reconnaissance du sens. Et je pense que quand j'ai démarré ce métier, j'avais en tête une phrase de Coriolan de Shakespeare qui à un moment dit aux Romains en quittant Rome, sans moi vous n'êtes plus qu'une cité sans citadelle. Et je crois qu'aujourd'hui, l'avenir de l'école, dans des quartiers où souvent c'est le dernier service public qui fonctionne, où nous rencontrons encore des familles dont le seul lien qui reste est un lien avec l'école, je crois que l'avenir de l'école est de devenir cette citadelle, une citadelle qui protège, une citadelle qui éclaire. Et donc si j'ai une supplique ou un conseil à donner à Monsieur Blanquer, ce serait d'être un bâtisseur de citadelle.
Alors citadelle, c'est un sanctuaire aussi, c'est un synonyme de sanctuaire quand vous dites citadelle?
La citadelle est ce qui protège des enfants qui ont grand besoin d'être protégés. La citadelle éclaire et transmet des choses fondamentales. Elle rassemble autour de valeurs qui ont besoin d'avoir un contenu. Et je pense qu'aussi, elle vit du matin jusqu'au soir. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des établissements scolaires qui soient vivants, pas seulement avec des professeurs qui, ma foi, je crois, avec leur temps de travail, sont déjà bien occupés, mais qui, en tout cas, occupent le terrain. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que l'école doit occuper le terrain et doit occuper encore plus de terrain que ce qu'elle occupe aujourd'hui.
Jean-Michel Blanquer.
Eh bien, va pour la citadelle, dès lors qu'elle a des fenêtres et des portes, quand même. Je pense qu'on doit avoir un discours d'équilibre sur ce point comme sur les autres. C'est-à-dire, je pense que l'école, en effet, est un lieu spécifique dans la cité, c'est tout à fait juste de le dire. Elle a ses logiques propres. Elle est un monde bien particulier, un monde où ce qui compte, c'est l'accomplissement d'une fonction, à mes yeux, bien définie. C'est transmission de la connaissance, transmission des valeurs. Pour ce faire, il faut évidemment qu'elle soit un lieu spécifique. En même temps, il est évident qu'elle doit être reliée à la société. D'abord, elle ne doit pas ignorer dans quelle société elle agit. Et puis, elle doit être attentive aux évolutions du monde, et en particulier d'ailleurs aux évolutions technologiques dont elle ne saurait se soustraire, non pas en les avalant telles quelles, non pas en se pliant à toutes les logiques extérieures, mais en sachant les penser et en sachant les vivre.
Je voudrais quand même là tout de suite mettre les pieds dans le plat. Beaucoup de gens sont inquiets et pensent que l'école va très mal. On peut même parler de marasme, sinon de désastre. C'est d'ailleurs ce dont vous faites état, Augustin Dumière, dans Un petit fonctionnaire. Et je voudrais vous citer aussi le livre d'une professeure de philosophie, Anne-Sophie Nogaret, Du mammouth au Titanic. Elle raconte sa propre expérience et elle a ceci d'intéressant, qu'elle a quitté l'enseignement pendant quelques années. Vous, Augustin Dumière, vous êtes à Meaux, je crois, avec une fidélité extraordinaire depuis 1995. Vous n'avez pas que c'est votre première affectation. Elle, elle est revenue aussi dans une zone d'éducation prioritaire, je crois. Elle a repris l'enseignement et elle a constaté que le niveau, qui n'était déjà pas fameux, avait drastiquement baissé. D'abord, le niveau de langue, de syntaxe, d'orthographe. Les élèves, dit-elle, écrivent les arbres, A-R-B-R-E-N-T, et ils mangent I-L-S-M-A-N-G-E-S. Ben oui, madame, répond-il en chœur, c'est un pluriel. Autrement dit, la différence entre le verbe et le nom n'est pas faite. Elle ajoute que un texte pour les élèves actuels n'est en réalité qu'une forme dénuée de contenu, un simple prétexte à évoquer différents thèmes, l'esclavage, le racisme, l'homophobie, l'écologie, qu'ils plaquent indifféremment sur n'importe quel écrit, réagissant de façon quasi pavlovienne à certains mots clés piochés de ci, de là. Si par exemple, l'auteur évoque dans son texte les noirs desseins de quelqu'un, je sais que je risque de lire quelques tirades virulentes sur l'esclavage et le racisme. Est-ce que ce diagnostic est aussi le vôtre? Et là, je pose la question aux petits fonctionnaires et aux ministres. Le petit fonctionnaire, pour commencer.
Alors, il est évident que quand vous prenez plus largement un certain nombre d'enquêtes sur l'état de l'école, vous apercevez qu'effectivement, en français... Monsieur Blanquer le sait bien, il y a 20% des élèves, c'est quand même pas rien, 20% quand même qui, à l'entrée en sixième, ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture. Et moi, je les vois, par exemple, lorsque je fais passer le bac français, c'est indubitable que la simple lecture d'un texte, de faire entendre un texte après 11 années passées dans le système éducatif, est un problème. C'est-à-dire que on voit très bien que ce sont des mots qui parfois sont lus de façon automatique, de façon sans du tout que le sens apparaisse clair. Alors après, effectivement, il y a des choses aussi qui sont extrêmement positives. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que je trouve notamment dans mes classes de grec et de latin, mais aussi dans mes classes de français, matière à encouragement. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne nie que l'élève sort de 11 années d'école avec très peu de choses. Très peu de choses en français, très peu de choses en histoire. En anglais, je crois que nous sommes dans les derniers rangs de l'Union européenne. Et je comprends qu'en mathématiques et en sciences, ça n'a pas l'air glorieux non plus.
Et donc, quand vous dites en français, c'est à la fois le patrimoine, la littérature et la langue.
Bien sûr.
Très peu de choses en syntaxe, en vocabulaire,
bien sûr,
en orthographe.
Exactement, les deux vont de pair. Donc le problème n'est plus de savoir si jamais on est décliniste ou pas. On le sait maintenant que c'est le cas d'une grande majorité d'élèves. Ils sortent avec très très peu d'éléments concrets et on voit ce que ça peut poser en termes de vivre ensemble, c'est-à-dire que quand on leur demande qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la laïcité, il y a très peu de textes, il n'y a même pas de mots d'auteur, donc il manque quand même énormément de choses, et même chez des élèves qui travaillent. Donc ce que je veux dire, c'est que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on essaye de modifier les choses? Je pense que tout ce qui est proposé, qui permet de, après les cours, de reprendre ce que n'a pas appris l'élève dans une journée de cours, tout ce qui peut concourir à renforcer la place de l'école est bienvenu.
Jean-Michel Blanquer.
J'ai évidemment envie de parler de ce que vous venez d'aborder, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur le diagnostic, je pense qu'on peut être d'accord en bonne partie, c'est-à-dire oui, le niveau de français, le niveau de langage s'est affaissé. On constate d'ailleurs des choses semblables parfois dans d'autres pays. On peut évidemment en parler beaucoup. J'insisterai juste sur le fait qu'à mon avis, la situation est très hétérogène. C'est surtout ça qui la caractérise. Et donc on trouve encore, fort heureusement, des écoles, des collèges et des lycées qui vont bien ou des élèves qui maîtrisent très bien la langue orale et écrite. Mais c'est extrêmement hétérogène et cette hétérogénéité débouche évidemment sur une accentuation des inégalités. Donc maintenant, que fait-on par rapport à cette situation? Encore une fois, hétérogène, eh bien, je pense qu'il faut reprendre les choses à la base, c'est-à-dire que pour moi, la première des priorités, c'est l'école primaire. À ce moment-là, il se passe des choses essentielles. J'insiste d'ailleurs énormément sur les premières années de la vie, en particulier l'école maternelle, le cours préparatoire et le CE1. D'abord parce qu'à l'école maternelle se joue déjà un enjeu de langage et de lutte contre les inégalités. C'est la première des inégalités, c'est une inégalité devant le vocabulaire et l'école. Et donc l'école maternelle d'abord doit être là pour venir compenser cela. Ensuite, sur la question du français, il faut aller vers des choses simples. Le français repose sur deux piliers, du vocabulaire et de la grammaire. Ce sont d'ailleurs des mots que je remets un peu à l'honneur parce que
vous les remettez à l'honneur parce qu'ils ne l'étaient plus, que effectivement, depuis des décennies, l'apprentissage des données fondamentales, grammaire, orthographe, vocabulaire, était scandaleusement négligé, voire parfois décrié. Donc vous reconnaissez que c'était
Oui, ça arrive, bien sûr. J'ai toujours d'ailleurs lutté contre cela. Soit parce qu'on faisait des périphrases, par exemple observation réfléchie de la langue pour parler de grammaire, soit parce que même certains ont pu dire que la grammaire était à proscrire en tant que telle. Alors là aussi, soyons équilibrés, tout le monde ne disait pas ça, l'institution n'est pas aussi monolithique que ce qu'on décrit parfois, les choses sont beaucoup plus complexes, mais le fait est que d'une certaine façon, tout cela manquait de clarté. J'espère en apporter en disant que oui, bien entendu, il faut que les enfants aient beaucoup de vocabulaire et que si on ne le fait pas, on creuse les inégalités. Donc le véritable progressisme, c'est évidemment de lutter pour cette acquisition de vocabulaire dès le début de l'école. Et puis la véritable lutte pour l'égalité, c'est évidemment aussi le fait de structurer la pensée des enfants. Et évidemment, la syntaxe, la grammaire, la structuration de la phrase est absolument fondamentale de ce point de vue-là. Donc ce sont déjà des premières choses simples, mais qui nous renvoient à ce qui se passe concrètement dans la classe lors des premières années de l'école primaire et pour lesquelles nous avons commencé donc à prendre certaines mesures.
En effet, vous le dites, et donc vous redonnez à ces données fondamentales que sont la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, la place que elles avaient perdue, en tout cas dans certaines classes. Mais la question que je voudrais poser maintenant, et encore à tous les deux, c'est serez-vous suivi ? Oui, vous serez suivi par Augustin Dumière et par des professeurs de son acabit. Mais j'ai sous les yeux un article tout récent du Monde faisant état triomphalement d'un manifeste signé par 314 professeurs du primaire, du secondaire et du supérieur qui viennent de décider de cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée par cette phrase connue de tous « le masculin l'emporte sur le féminin ». Donc on n'écrira plus « les hommes et les femmes sont contents » mais « les hommes et les femmes sont contentes ». Ainsi va-t-on promouvoir une grammaire plus égalitaire et le Monde se réjouit de ce manifeste dans le contexte qui voit la lutte contre le harcèlement sexuel, les violences et les stéréotypes sexistes est élevée au rang de priorité par une frange de la société. Autrement dit, il s'agit de balancer son port grammatical. Moi, je n'ai pas d'opinion, le masculin l'emporte sur le féminin, mais je m'interroge sur l'urgence à proposer cette nouvelle règle alors que les élèves connaissent mal la grammaire et la syntaxe, et puis c'est aussi la littérature qui est écrite ainsi. Alors va-t-on rédiger autrement les textes littéraires de notre propre héritage ? En tout cas, je suis assez surpris de cette mobilisation dans le cadre de la lutte contre le sexisme, et je me demande si effectivement les professeurs sont aujourd'hui, dans leur majorité, disposés à faire le travail que vous exigez l'un et l'autre et à reconstruire la citadelle. Augustin Dumière.
Je crois que si jamais les mots de vocabulaire et de grammaire reviennent au goût du jour, c'est aussi parce que cette école qui a mis de côté la grammaire, le vocabulaire, l'enseignement du français qui a expliqué que la maîtrise parfaite du français n'était pas capitale, a aussi engendré des inégalités majeures. C'est-à-dire qu'il y a toute une fraction de la population scolaire qui a vraiment l'impression d'être tenue à l'écart, qui n'aura jamais accès aux métiers qui sont un peu gratifiants, quelle que soit la foi qu'ils mettent dans l'école. Et que par conséquent, ça va de pair aussi avec un souci d'égalité. Et à cet égard, je crois qu'aucun professeur ne peut manquer à ce souci d'égalité et de faire réussir notamment ceux qui ont le plus besoin de l'école. Parce que c'est à eux que l'école s'adresse, c'est à eux qu'à travers la grammaire, il y a aussi l'enseignement du grec et du latin qui est important. Parce que ce que vous décrivez est un peu la façon dont les programmes scolaires et les enseignements ont été construits, c'est-à-dire avec la mode du jour, c'est-à-dire la mode du moment, et à la fin vous aboutissez à un agrégat où tout se vaut et où l'élève finit par sortir avec un agrégat de connaissances qui ne fonde rien pour sa vie de citoyen, et surtout qui fait que ça engendre le repli sur soi, parce que qu'est-ce qui reste dans l'idée de république ou de laïcité? Qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble? Moi, quand je discute avec des élèves avec lesquels je travaille le soir au sein de l'association Métis, ils me disent « Ah oui, la laïcité ou la république, c'est ne pas parler de ce à quoi on croit ». Ça veut dire qu'en clair, dans cette idée-là, maintenant, tout ce qui est important, tout ce qui fonde un vivre ensemble, tout ce qui est un peu transcendant, c'est rejeté dans la sphère privée. Donc, autour de quoi est-ce que nous allons construire quelque chose qui nous réunisse, si jamais tout ce qui est fondamental est rejeté dans la sphère privée?
On ne peut pas le construire autour de nos religions respectives, de toute façon.
Non, mais il y a la religion, mais il y a quand même des croyances philosophiques, il y a quand même une idée de l'homme. Tout ce qui aujourd'hui existe dans la République est sous-tendu quand même par une métaphysique qui n'appartient pas à une religion en particulier.
Oui, mais vous parlez d'égalité, et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Michel Blanquer, et vous dites l'un et l'autre, finalement, l'enseignement aujourd'hui creuse des inégalités. Alors je me demande, pourquoi est-ce que ça ne vient pas, justement, d'une certaine idée de l'égalité? Est-ce que c'est pas l'égalité devenue folle? Parce que je vous donne cet exemple. De quoi s'agit-il pour ces 314 enseignants? C'est de rendre la langue plus égalitaire. On veut rendre la langue plus égalitaire. On veut rendre les programmes plus égalitaires. On veut mettre sur le même plan les productions de l'industrie culturelle et l'héritage et le grand patrimoine. Parce qu'après tout, pourquoi faire des hiérarchies? C'est aussi au nom de l'égalité que l'autorité a été longtemps considérée, et elle est encore par certains professeurs, comme une violence symbolique, pour parler le langage de Bourdieu. Donc on voit une certaine idée de l'égalité ruiner l'école, ruiner la transmission, la mettre en crise, la mettre en péril. Je ne sais pas si la fonction de l'école, c'est de faire reculer l'inégalité ou de faire reculer l'ignorance, mais en tout cas, une certaine idée de l'égalité est à l'œuvre qui rend les choses de plus en plus difficiles et qui contribue, me semble-t-il, à la destruction de l'école.
Alors moi, l'idée d'égalité dont je vous parle, c'est le fait de voir depuis des années des élèves qui font leur travail, qui sont motivés, qui aspirent à devenir médecin ou avocat et qui n'y arrivent jamais. Et c'est cette inégalité-là dont je vous parle. Et c'est celle aussi qui fait que dans une classe de cinquième d'un collège du lycée, on enseigne la même chose que dans un lycée de première qui est quelques kilomètres plus loin. C'est cette égalité-là dont je vous parle.
Jean-Michel Blanquer.
Oui, je pense que là, encore une fois, la véritable égalité, c'est celle qui donne à tout le monde déjà un langage structuré qui permet ensuite de développer tous les autres savoirs. Donc c'est pourquoi il y a une telle priorité à donner aux Français d'abord, aux mathématiques ensuite, et puis aussi à la transmission des valeurs, ce que j'appelle respecter autrui. Ce sont des choses simples, à mon avis, qui sont normalement susceptibles de provoquer un certain consensus national. Je peux paraître assez optimiste quand je dis ça. J'ai évidemment en tête toute une série de débats qui peuvent exister dans notre pays. Mais en réalité, puisque votre question initiale portait sur l'état d'esprit des professeurs, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'une grande majorité des professeurs, pas tous, peut-être pas 314, mais une grande majorité des professeurs ont envie de cette simplicité, de cette structuration qui est ce que nous pouvons offrir à nos élèves pour qu'ensuite ils s'épanouissent sur le plan des connaissances comme sur le plan des valeurs. Et donc il y a, je pense, la possibilité aujourd'hui d'un consensus français autour de l'école. Je dis bien la possibilité, ce consensus n'existe pas aujourd'hui, mais on peut le fabriquer, c'est ce que j'appelle l'école de la confiance, tout simplement par des mesures qui permettent de remettre les choses d'équerre. Et ce processus, nous l'engageons aujourd'hui de manière extrêmement concrète. La division des classes de cours préparatoires par deux en réseau d'éducation prioritaire en est un signal, parce que c'est d'ailleurs bien la preuve que nous consacrons des moyens spécifiques aux territoires qui en ont le plus besoin. C'est aussi la preuve par la même occasion que ce que nous voulons, c'est un premier départ dans la vie scolaire, dans la vie d'élèves réussi. Et qu'on puisse ainsi donner, encore une fois, un égal accès au savoir. Ce faisant, il y a évidemment de nouvelles réalités pédagogiques à l'œuvre, et ces réalités pédagogiques, c'est encore une fois un enseignement structuré, explicite, progressif, qui permet aussi d'ancrer chez l'enfant le socle de savoirs fondamentaux dont il a besoin au tout début de la vie. C'est pourquoi Je parle d'exigence bienveillante aussi, parce que une des tendances qui a pu exister au cours des dernières décennies, ça a été de diluer, de dire que un savoir pouvait s'acquérir au fil du temps, et d'une certaine façon, ça déresponsabilise tout le monde, puisqu'on attend pratiquement la fin de la scolarité pour vérifier que des choses fondamentales ont été acquises. C'est ce que je dis lorsque je dis que les quatre opérations doivent être acquises assez vite, qu'on doit connaître ces tables de multiplication assez vite aussi, parce que c'est démontré d'ailleurs par les sciences cognitives que ce socle de départ va être essentiel pour la suite. Ces idées-là, en réalité, sont des idées de plus en plus partagées. C'est ce qui fonde mon optimisme raisonnable sur ces questions. C'est aussi ce qui fait que j'essaye d'éviter des polémiques sur toutes ces questions. J'essaye plutôt d'aller de l'avant par des faits concrets, et notamment cette mesure de division des classes de CP par deux, l'année prochaine de CE1, et toute une politique qu'on aura aussi en termes de ressources humaines pour que les professeurs se sentent bien dans leur métier et aient un bien-être tout simplement qui soit d'abord lié à la réussite pédagogique de leurs élèves.
Je reste un instant à cette question de l'égalité. Je cite Jacques Julliard, l'école est finie. On ne dira jamais assez à quel point le mot d'ordre d'égalité a servi depuis des années de pavillon de complaisance à la destruction des parties saines de notre système éducatif. Et j'en donne un exemple. Tous les hommes étant égaux en dignité et en droit, ben on ne fait redoubler personne. Parce que le redoublement, c'est prendre acte d'une certaine inégalité, peut-être circonstancielle, peut-être pas, entre certains élèves. Cela, on le refuse. Et on en vient, et là-dessus je voudrais vous interroger quand même aussi, à donner le bac à tout le monde, en dépit de ces carences terribles en matière de langue et en matière de connaissances. C'est-à-dire, le bac aujourd'hui, son taux de réussite, il n'y a que les médias pour dire que c'est un bon cru. Son taux de réussite est une catastrophe. Vous le dites dans votre livre « Petit fonctionnaire », c'est aussi ce que dit Anne-Sophie Nogaret, et c'est terrible pour les professeurs, qui sont corrompus, puisqu'on leur demande de gonfler leurs notes, on leur demande de mentir. On parle de moralisation de la vie publique, ben, la moralisation, ça doit être ça. C'est-à-dire, on ne devrait pas mettre les examinateurs en situation de mentir. Et ils se font gronder, ils se font rappeler à l'ordre dans les commissions d'harmonisation, si précisément ils mettent la note que l'élève mérite. Donc c'est une situation ubuesque, mais qui, encore une fois, procède d'une certaine idée de l'égalité. On ne veut pas instaurer de hiérarchie entre les élèves, entre les savoirs, entre les professeurs et les élèves. Et c'est une des raisons, je le répète, du marasme actuel de l'école. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic, premièrement? Et deuxièmement, comment faire pour en sortir?
Je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic, mais je crois que c'est une idée d'égalité qui est totalement trahie et bafouée que celle qui amène effectivement à ce que vous décrivez. Bien sûr qu'il y a des élèves auxquels on refuse le temps, parce que il y a des élèves qui ont besoin de temps. Je veux dire que un élève, si on le fait passer au pas de charge de classe en classe, c'est évident que que chez lui en plus, il ne trouve aucun relais sur ce qu'il apprend à l'école. C'est lui rendre le pire service qui peut exister. Donner le bac à un élève en sachant très bien qu'il n'a pas le minimum pour franchir les étapes ensuite dans l'enseignement supérieur en prétendant qu'il peut poursuivre des études pour devenir avocat ou médecin, alors qu'on sait très bien que c'est faux, c'est effectivement un mensonge absolument scandaleux et qui, je pense, peut entretenir une certaine rancune qui, pour le coup, n'est pas illégitime vis-à-vis de l'école. Je veux dire que moi, je vois, puisque je suis là depuis 20 ans, une certaine amertume vis-à-vis d'élèves. Je pense notamment des filles qui avaient cru à la fonction émancipatrice de l'école et qui ont le sentiment d'avoir été trompées, et leur famille avec, sur ce qu'on leur a vendu. Je parle la valeur d'un baccalauréat, la possibilité de mener des études supérieures. Cette idée d'égalité porte aujourd'hui un regard assez étrange là-dessus.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer assez vite après mon arrivée, d'ailleurs sur la question du redoublement que vous évoquez, pour dire qu'il était absurde de l'interdire. Maintenant, le redoublement n'est jamais souhaitable en soi, évidemment, mais on doit être de plus en plus conscient du fait qu'il est nécessaire d'avoir une personnalisation des parcours de l'élève. En fait, ça a été une réalité de tout temps, mais c'est une réalité peut-être encore plus forte à notre époque. Et cette personnalisation du parcours de l'élève, elle doit nous permettre justement d'avoir un rythme spécifique de chaque élève, qui parfois peut s'accélérer, parfois peut se ralentir en fonction des besoins. On peut donc avoir un raisonnement pédagogique qui finalement fait de la prévention réelle du redoublement, tout en maintenant la possibilité du redoublement. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, et dès cette année, c'est cela qui change dans le système scolaire. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je ne souhaite pas, au cours de l'air, m'attarder sur le diagnostic, puisque je crois qu'on est en accord sur une partie forte, ce qui est important maintenant, puisque vous avez en face de vous le ministre de l'Éducation nationale,
oui.
C'est de se
qu'est-ce
dire
qu'il faut
que
faire
faisons-nous, puisque on peut se délecter de toute une série de constats négatifs et on pourrait argumenter.
On ne s'en délecte pas. Franchement,
non, mais
il n'y a pas de délectation. Il y a surtout une certaine tristesse.
J'ai utilisé le conditionnel, mais oui, il y a des choses qui ne vont pas. On peut en être d'accord. Oui, on peut, avec d'ailleurs, je pense, une grande majorité des professeurs et de la population, partager un certain diagnostic sur les causes. Maintenant, puisqu'il y a cette possibilité d'un socle de diagnostic, que faisons-nous ? Je pense que c'est important de le dire. On a là un professeur qui, justement, a pris toute une série d'initiatives extrêmement intéressantes pour structurer quelque chose dans un établissement à Meaux. On a la possibilité, on a aussi des initiatives qu'il a prises en termes de qualité. C'est justement ce type de choses que nous allons faire maintenant. C'est important d'en parler, je crois.
Mais oui, mais je parlais du baccalauréat, du désarroi de ces professeurs à qui on demande de ne pas être sincère. J'ai rencontré plusieurs ministres de l'Éducation nationale dans ma vie, puisque je commence à prendre de l'âge. Et l'un d'entre eux m'a dit, écoutez, moi, je peux faire un vrai bac, si vous voulez. Je peux faire un vrai bac. Simplement, qu'est-ce que je vais faire des élèves qui échouent ? Parce qu'un vrai bac, c'est effectivement des échecs. C'est 60%, 65%, c'était le bac que j'ai connu. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux rien en faire. Je sais pas. Il n'y a pas de place. C'est pas possible. Donc, il faut que je gère les flux. Et gérer les flux, c'est engorger les universités. Et alors, on voit le gouvernement qui se tortille en disant « Oh ben non, ça va pas être de la sélection, ça va être des prérequis, ça met bien quand même un peu de sélection, etc. » Parce que de toute façon, aujourd'hui, l'université est un abattoir. Il y a un moment où la sélection joue, et tant mieux. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas devenir chirurgien ou pilote d'avion, et notre sécurité est en jeu. Donc, donc le principe de réalité peut être différé, mais à un moment, il tombe. Et le verdict peut être très lourd. Donc je vous demande, allez-vous non seulement réformer le baccalauréat, aurez-vous la possibilité, Jean-Michel Blanquer, d'en faire un examen qui rime à quelque chose ?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le processus a commencé. J'ai chargé une personne qui s'appelle Pierre Mathieu de travailler à une concertation sur le baccalauréat qui donnera ses résultats au début de l'année 2018. Et cette concertation doit nous permettre de définir un baccalauréat qui ait plus de sens, en effet. Je ne crois pas qu'il faille se concentrer sur le taux de réussite, ni dans un sens, ni dans un autre, ni ceux de la part de ceux qui menaient le raisonnement que vous décriez précédemment, ni pour dire l'inverse, c'est-à-dire pour se dire que ce serait bien si le taux était plus bas. Ce qui est, la société évolue, on a besoin d'amener plus de personnes à un niveau de plus en plus haut. Le baccalauréat, c'est quelque chose de très divers. Je rappelle que ça englobe le baccalauréat professionnel, qui lui-même doit mener dans la plupart des cas une insertion professionnelle. Donc on peut avoir une vision, élargie de ce qu'est le baccalauréat demain. La future réforme s'agissant du baccalauréat, elle aura pour mission surtout de développer l'excellence de chacun dans son domaine. Le président de la République, lors de la campagne présidentielle, avait dit qu'il faudrait un baccalauréat avec 4 matières en contrôle terminal et le reste en contrôle continu. C'est le socle de la réflexion, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses à dire autour de cela. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est de remuscler le baccalauréat, de faire que les élèves puissent choisir des matières qui correspondent à une excellence et un désir qu'ils veulent développer, ce qui donc peut permettre de réaliser 2 objectifs. L'un qui est l'amélioration du niveau, avoir par exemple plus d'heures dans une discipline correspondant à un choix que l'on a fait. Et puis, et en même temps, hausser le niveau général du pays, parce que on aura un continuum plus grand entre ce qu'on a fait en lycée et ce qu'on est susceptible de réussir dans l'enseignement supérieur.
Alors maintenant, toujours dans la perspective de changer les choses ou de les améliorer, sans aucune délectation morose, je vous demanderai à l'un et à l'autre quelle définition vous donnez au métier de professeur. Première question, et une question subsidiaire à vous, Augustin Dumière, dont j'ai lu les 2 livres. L'idée que vous faites de votre métier est-elle partagée, selon vous, par la majorité de vos collègues ?
Je dirais que être professeur aujourd'hui, c'est un peu être ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que vous devez...
Alors qu'être ministre de l'Éducation nationale, c'est être professeur.
Vous devez un peu tout inventer, c'est-à-dire les règles de votre classe, ce que vous allez enseigner, adapter ce que vous allez enseigner et vos exigences personnelles avec les programmes. Donc il y a tout à faire, si je peux dire, dans une classe. Tout est à construire. Comment vous allez travailler avec cette classe? Comment est-ce que vous allez fonctionner? Puisque tout est à refonder. Et je dirais même qu'en grec et en latin, vous devez même aller chercher vos élèves. Donc c'est vraiment quelque chose qui faut faire du début jusqu'à la fin. Faut appeler les familles des élèves absentéistes ou des élèves qui dont on voit très bien qu'il faut pas penser que quelqu'un d'autre va le faire. Tant mieux s'il y a quelqu'un qui le fait, mais sinon il faut le faire. Il faut tout faire.
Mais oui, il faut tout faire, d'accord. Mais est-ce que pour vous l'essentiel c'est la transmission du savoir ou est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle, avec les tensions dont notre société souffre, le rôle du professeur doit être aussi de construire le vivre ensemble, par exemple? Est-ce que vous vous concentrez sur la définition première, celle, si vous voulez, en effet, qui prévalait avec la Troisième République?
C'est-à-dire que tout va de pair. C'est-à-dire que le vivre ensemble, il ne peut reposer aujourd'hui que sur la maîtrise d'une langue et sur la connaissance de textes. Sinon, il y a quoi dedans? Si jamais vous n'y mettez pas des auteurs, des textes, des mots, il n'y a plus rien dans ce vivre ensemble. Donc, je dirais que les deux vont de pair. Il faut à la fois redonner du sens à l'école, à des élèves qui ont quelques bonnes raisons de penser que l'école ne sert pas à grand-chose. Il faut faire vivre les textes, faire en sorte que tout ce qui peut venir de l'extérieur en termes de déconcentration, d'images, de téléphone portable, reste à la porte de l'école. Ah. Donc il faut se battre sur tous ces terrains-là.
Alors oui. Et vous, quelle est votre définition, Jean-Michel Blanquer?
Bon, je risquerais une définition un peu idéaliste. Mais pour moi, un professeur, c'est un enchanteur. Cette définition me paraît être l'idéal à poursuivre de la part de tout professeur. Ça marche dès l'école maternelle, d'ailleurs. L'école doit être un enchantement quand on y arrive. Et cet enchantement, si possible, ne doit pas cesser. Et c'est un enchantement, évidemment, par le savoir. Et la passion du professeur pour son savoir est une passion contagieuse. Ce que je dis n'est pas purement idéaliste. Ça existe. C'est possible. C'est des choses que j'ai vécues personnellement. Et donc, je pense que beaucoup de professeurs ont envie de cela. Et quand les circonstances font que ça ne se produit pas exactement comme je viens de le dire, eh bien, ils aimeraient que ces circonstances changent. Alors, et c'est mon rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale que de créer ces conditions.
Quand vous dites « c'est un enchanteur », en effet, nous avons tous des souvenirs de moments enchantés, aussi de moments d'ennui. Mais après tout, l'ennui fait partie de l'école. Mais des moments d'enchantement, mais c'est toujours. Vous n'avez pas d'enchantement comme ça, dans une discussion, dans un forum. Vous n'avez pas d'enchantement avec des élèves agglutinés pour faire un enseignement interdisciplinaire sur je ne sais quel sujet. Madame Bovary mangeait-elle équilibrée? Non, vous avez l'enchantement d'un professeur qui, tout d'un coup, vous parle de Madame Bovary, vous montre le génie de Flaubert à l'œuvre, le génie stylistique, la puissance d'élucidation. Donc, si enchantement il y a, c'est dans un cours magistral. Ça veut dire, si je vous entends bien, que vous remettez au cœur de l'enseignement le cours magistral dont toute une partie de la pédagogie a voulu débarrasser l'école en considérant que c'était une vieillerie, si vous voulez même, oppressive.
Je n'ai évidemment aucun problème avec la notion de cours magistral. Après, c'est une question de définition des choses, mais il est évident qu'il y a un savoir. Ce savoir se délivre, il l'est par un maître, donc c'est la racine de l'expression magistrale. Mais ça va de pair avec l'idée de participation de l'élève. Je pense qu'on ne doit pas opposer les choses. Ce qui crée de l'enchantement, c'est aussi le fait que l'élève a du désir pour cette connaissance qui lui est transmise. Et donc, il peut parler, cet élève, il peut dire à son tour des choses, il peut préparer des choses. Donc, de nouveau, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut parfois dépasser un clivage que l'on a souvent vu dans les débats pédagogiques, c'est-à-dire qu'on doit avoir et l'effort et le plaisir, et la transmission du savoir et la participation de l'élève à cette transmission. Dans les cours tels qu'ils ont lieu, c'est aussi dans les meilleurs qui se passent, c'est cette chose qui se réalise.
Vous êtes d'accord avec cette définition, Augustin Dumière ?
De l'enchanteur, oui, mais pour enchanter, il faut avoir devant soi un public qui veuille bien être enchanté, c'est-à-dire qu'il soit un tout petit peu concentré, qu'il soit là, qu'il soit dans des...
Soit réceptif.
Voilà, qu'il soit tant soit peu réceptif. Donc pour construire cela, c'est déjà, faut le dire, pour beaucoup de professeurs, c'est quand même une bataille quotidienne que d'avoir simplement des élèves attentifs, c'est-à-dire ou bien qui ne sont pas totalement déconcentrés par un téléphone portable, ou alors qui ne sont pas totalement apathiques et qui pour lesquels l'école n'a qu'assez peu de sens, que ce qu'on y apprend n'a absolument aucun intérêt parce qu'aucun lien avec la vie réelle. Donc il y a cette première bataille. Après, évidemment, une fois que cette première bataille est gagnée, tout est possible.
Et c'est Monsieur Blanquer. Je pense que l'enfant qui arrive à l'école primaire est dans la situation de pouvoir se concentrer, de pouvoir entrer dans cet enchantement. Et donc, nous devons garder cet émerveillement possible devant le savoir. Nous devons garder cette dimension de presque républicaine aussi, de la vie collective qui peut exister dans la classe. Nous devons garder des principes de respect d'autrui que l'on installe dès le départ. Et à partir de là, l'enseignement secondaire, progressivement, sera bénéficiaire de cette logique que l'on met en route. Encore faut-il y croire et encore faut-il que chacun agisse dans cette direction. Mais je visite énormément d'écoles, énormément de collèges, de lycées, je vois des classes. Je vois bien la possibilité de ce que je suis en train de dire, parce qu'en réalité, ça existe. Il y a des choses qui vont bien, il y a des élèves qui restent concentrés aujourd'hui. Maintenant, il s'agit maintenant de passer à l'offensive, en quelque sorte. Par exemple, par rapport au phénomène de déconcentration dont vous venez de parler, le fait que de plus en plus d'élèves ont des difficultés de concentration, il est évident qu'on doit aller aussi à la racine de ce sujet. Je prends un seul exemple. En fait, les enfants à l'école primaire aujourd'hui sont assez nombreux à lire. Pas tous, pas suffisamment, mais il y a beaucoup d'élèves qui ont la passion de la lecture à l'école primaire. Il faut entretenir cette passion, mais ce que l'on observe, c'est que ces pratiques de lecture déclinent à partir de la classe de 6e, de lecture choisie, de lecture personnelle de la part de l'élève. On observe d'ailleurs symétriquement des phénomènes d'obésité qui se déploient notamment à cette période de la vie, et donc un manque d'exercice physique. Et je fais le parallèle entre les deux. De moins en moins d'élèves qui lisent à partir de la 6e, de moins en moins d'élèves qui font de l'exercice physique à partir de la 6e. On sait que c'est en partie lié à la société des écrans, au temps passé sur Internet. Et donc, on doit évidemment regarder en face cette question pour finalement faire en sorte que l'élève se réapproprie son esprit et son corps. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel, dont les racines sont à chercher dans ce qui se passe dès les premières années de l'école et dans le continuum qu'on est capable de créer entre l'école et le collège.
Ah, vous parlez de la société des écrans. Alors justement, je me souviens de la Commission pour la libération de la croissance française, ses travaux. Cette commission était présidée par Jacques Attali. Et Emmanuel Macron, vous le savez, était le rapporteur adjoint. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les décisions, il s'agissait de se donner les moyens pour que tout élève maîtrise, avant la fin de la 6e, le français, la lecture, l'écriture, le calcul, l'anglais, le travail de groupe et l'informatique. Insistant sur la créativité, le travail de groupe, contre la mémoire et l'application même. L'application. Fort heureusement, j'ai pas le sentiment que vous suiviez, Jean-Michel Blanquer, ses décisions la lettre.
Peut-être pas à la lettre, mais je vais peut-être vous surprendre négativement, puis après mon argumentation positivement. Récemment, je regardais un programme de code informatique. Et ce qui me frappait, c'était à quel point, pour réussir à coder, il fallait faire en fait ce qu'on appelle une analyse de phrase. Autrement dit, il y a un rapport étroit entre la logique grammaticale classique et le raisonnement qu'un élève doit mener pour le code. Et c'est d'ailleurs... Le code se trouve en quelque sorte à équidistance des enjeux de la grammaire et des enjeux des mathématiques. Donc, je pense que aujourd'hui, bon nombre de nos enfants et adolescents ont une culture en réalité assez superficielle de l'informatique et des usages assez superficiels de l'informatique. Et donc, je suis assez en accord avec l'idée que nous devons aussi leur donner ce qu'on appelle maintenant les humanités numériques, non pas opposées mais complémentaires des humanités classiques, pour que ils ne soient pas les esclaves de cette civilisation technologique dans laquelle nous entrons, mais des personnes capables d'en comprendre les enjeux sous-jacents, aussi bien par la culture générale qu'ils acquièrent, la culture qu'on peut qualifier de classique, que par une culture numérique qui est absolument indispensable et qui doit s'acquérir elle aussi évidemment au fur et à mesure.
Mais en tout cas, les dirigeants de la Silicon Valley ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Michel Blanquer. J'ai sous les yeux le livre de Philippe Biou, qui est ingénieur, et de Karine Movili, qui est historienne, « Le désastre de l'école numérique ». Et ils font référence à une école privée de Los Altos en Californie, la Waldorf School of the Peninsula, où on peint, on récite au tableau, on fait des expériences scientifiques, on jardine, sculpte et tricote, garçons et filles. Il n'y a pas d'ordinateur en classe primaire et un usage très limité des technologies dans le secondaire. Un des parents d'élèves, un vice-président de Google, connecté 24 heures sur 24, mais ne veut pas de cela pour ses enfants. Et plus étrange encore, dans un classement des 10 lycées les plus connectés des États-Unis, on ne trouve pas un seul établissement californien. Et il me semble que...
Je ne suis pas réellement en désaccord avec ce que vous êtes en train de dire. Le mot clé que j'utilise sur ces questions du rapport entre l'école et le numérique, c'est le mot de discernement. Vous avez à la fois des logiciels qui peuvent être par exemple très pertinents sur le plan pédagogique pour l'acquisition des savoirs fondamentaux, par exemple pour faire du calcul mental de façon ludique, pour prendre cet exemple. Vous avez aussi certains programmes qui sont très utiles pour lutter contre certaines dyspraxies, comme l'on dit. Vous avez aussi pas seulement la société des écrans, vous avez maintenant la robotisation, vous avez des robots qui sont utiles actuellement pour la socialisation des d'enfants autistes. Donc on doit avoir du discernement. Et là où je serais d'accord avec ce que vous dites, c'est que à l'école primaire, on doit être extrêmement attentif à ce que la société des écrans soit peu présente. Pas absente, mais peu présente. Il est par exemple démontré que de 0 à 7 ans, l'exposition aux écrans est une mauvaise chose, et je le dis en permanence, c'est que ça crée ces phénomènes de déconcentration dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vers une position de discernement que j'invite à aller, parce que il s'agit pas non plus de s'extraire complètement de cette société. Sinon, non. On en devient l'esclave ensuite, quand on sort de la citadelle.
Ah, mais la citadelle, moi je la verrais très bien unplugged, mais peut-être,
moi aussi.
Peut-être que je vais trop loin. Augustin Dumière.
Oui, moi je suis toujours assez étonné de voir quand même une génération qui, comme la mienne, a découvert l'Internet vers 20-30 ans, n'a eu aucune difficulté. Vous parlez justement des liens entre la grammaire et le codage informatique, mais ça suppose qu'on connaisse au préalable la grammaire. Donc c'est quand même une génération qui a été plutôt bien préparée à voir tout ce qu'apportait le numérique et l'informatique. Et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude claire qui tente à prouver qu'un élève qui travaille avec des tablettes apprenne plus vite. Au contraire, j'ai l'impression que dans les sciences cognitives que vous connaissez bien, on montre au contraire que un élève qui apprend à lire avec un stylo développe davantage de capacités que quelqu'un qui apprendrait sur une tablette. Ça n'a pas empêché le précédent.
Non, mais il faut absolument écrire avec un stylo. Ça,
le précédent gouvernement d'investir, je crois, un plan d'un milliard. Et moi, ce que je trouve insupportable, c'est l'idée de se dire que on va faire des expériences. C'est ce dont j'ai eu l'impression par le passé, avec, comme par hasard, les élèves les plus fragiles. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent à peu près, mais non, on va tenter des choses nouvelles, et sur un public qui ne peut pas se défendre.
Alors, Jean-Michel Blanquer. Je voudrais faire la part des choses dans ce que vous venez de dire, parce que je suis en bonne partie en accord, mais peut-être avec quelques points de désaccord. D'abord, on est bien d'accord pour considérer qu'il faut structurer la pensée de l'enfant et qu'on peut le faire d'une manière qu'on pourrait qualifier d'éternelle, et en particulier par une bonne connaissance de la grammaire. Cette question de la structuration est très importante. Ce que vous avez dit sur le stylo, c'est très vrai aussi. Il faut que les enfants aient une graphie et on a démontré que non seulement c'est utile en soi, mais que ça a des vertus cognitives. Et si je m'appuie tant sur les sciences cognitives, c'est parce qu'elles nous permettent quand même d'objectiver certaines affirmations que l'on peut faire. Et notamment, par exemple, cette idée qu'en effet, il faut éviter autant que possible que les enfants soient en contact avec les écrans avant 7 ans. Mais par ailleurs, vous avez aujourd'hui des progrès en matière informatique qui permettent, pour certains enfants qui ont des difficultés de lecture, en effet, de les faire entrer de façon efficace dans la lecture par un certain type de programme. Donc ce serait absurde de bannir l'informatique comme en la diabolisant. Il faut encore une fois avoir beaucoup de discernement et ensuite être évidemment capable de faire entrer l'élève progressivement dans tout ce que cela suppose. Mais là où on sera évidemment totalement d'accord, c'est qu'on doit structurer de manière informatique, numérique, l'élève d'abord et avant tout, et qu'on doit lui donner une culture générale solide, une culture humaniste pour ce monde technologique dans lequel nous entrons. J'en suis évidemment plus que d'accord et j'agis dans ce sens.
À notre discernement, ça nous évite en effet le fétichisme technologique. Mais maintenant, je voudrais aborder un autre problème. Si l'école traverse une crise aussi grave, c'est peut-être aussi du fait d'un certain changement du public scolaire, d'un changement des parents d'élèves aussi. Parce que et ils ont une grande attente, disiez-vous au début d'émission, Augustin Dumière, mais enfin, on attend d'eux aussi des comportements, si vous voulez, dignes, et certains parents deviennent extraordinairement vindicatifs et se comportent, je cite encore une fois Anne-Sophie Nogaret, comme des donneurs d'ordre. Et en plus, ils protestent quelquefois, ils font appel d'un certain nombre de décisions, de mauvaises notes de leurs enfants, etc. Mais si j'en viens aux élèves, vous parliez du portable. Je me souviens d'un récent article de Barbara Lefebvre parlant d'un élève qui avait molesté son ou sa professeur à Grany, je crois, parce que celle-ci avait confisqué son portable. Une violence, des incivilités en classe qu'on ne connaissait pas et qui sont le pain quotidien d'un certain nombre de professeurs. On me reproche de penser que parfois c'était mieux avant, mais quand j'ai commencé d'enseigner, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. J'allais au lycée technique de Beauvais et pour faire mon cours. Et parfois, je ratais mon cours, mais c'était ma faute. Mais c'est tout. Je n'y allais. C'était pas un sport de combat. J'avais pas besoin de me demander comment tenir ma classe. Ça a changé. Ça a changé. Alors, que peut-on faire devant un changement comme celui-là? Faut-il constater qu'il y a et qu'il y aura, pour les années, les décennies, voire les siècles à venir, des quartiers difficiles? Jean-Michel Blanquer.
Je ne crois pas à la fatalité. Je pense qu'on peut vraiment prendre une bonne pente sur ce point-là. Évidemment, il y a plusieurs facteurs. Le facteur qu'on a évoqué précédemment, qui est très important, c'est-à-dire la capacité de concentration des élèves. Et donc, il y a le sujet qu'on a abordé au travers du numérique, mais il y a d'autres choses. Par exemple, j'ai beaucoup poussé le jeu d'échecs pour les activités scolaires ou périscolaires, parce que on voit très bien que par des activités de ce type, les élèves améliorent leur capacité de concentration. Le sport peut jouer aussi un rôle extrêmement positif si les choses sont bien pensées en la matière. Donc il y a toute une série d'éléments autour de la vie de l'élève qui permettent d'améliorer à la fois sa capacité de concentration et puis aussi le sens du respect d'autrui. Et sur cette deuxième dimension, j'ai évidemment l'intention d'avoir une action extrêmement volontariste. La question du rétablissement de l'autorité à l'école, au collège et au lycée est pour moi au cœur de ce que j'ai à faire. J'ai commencé à le faire. J'ai dit à tous les chefs d'établissement de France que lorsqu'il doit y avoir un conseil de discipline, eh bien il doit y avoir ce conseil de discipline, qu'on n'aurait plus à regarder les statistiques en pensant que quand un établissement a peu de conseils de discipline, c'est que tout va bien, alors que c'est une façon, c'est tout simplement de casser le thermomètre. On doit donc aller vers un rétablissement de l'autorité qui commence d'abord par ce qui se passe dans nos têtes. Donc, si vous voulez, ce que je souhaite faire pour arriver à ces progrès indispensables de l'école dans le futur, c'est d'abord rétablir une sorte de confiance du système en lui-même, et ça commence aussi par la confiance des professeurs en eux-mêmes et des professeurs dans l'institution. C'est pourquoi je tiens tant à tenir un discours positif sur les professeurs de France, parce que nous leur devons tous ce respect que vous souhaitez de la part des élèves vis-à-vis des professeurs, que nous devons souhaiter de les réinstaller en quelque sorte, quand c'est nécessaire, au cœur de cette citadelle, au cœur de la cité scolaire. Et donc, c'est un discours de respect des professeurs, un discours de respect d'autrui, et ça passe en effet par une plus grande concentration des élèves, par un plus grand sens du travail, puis aussi par, évidemment, la transmission des valeurs qui doit être faite par l'école.
Moi, je ne nie pas du tout qu'effectivement, qu'il y ait dans les collèges. Moi, je suis professeur en lycée, donc je suis moins confronté effectivement à la violence qu'il peut y avoir effectivement dans certaines classes de collège. Mais je maintiens ce que je vous disais au début. Je pense qu'il y a, et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, une attente énorme par rapport à l'école. Une attente énorme, et que par rapport à la situation d'aujourd'hui, où on a une école qui transmet très peu de choses, qui nous donne une égalité des chances qui est à peu près digne de l'Angleterre victorienne, je crois qu'effectivement, il y a un sentiment de colère, parfois, effectivement, qui se fait jour dans certaines familles, et que l'autorité, elle existe aussi quand elle est légitime, et qu'il est très important que tout ira de pair, qu'à partir du moment où cette école se remettra à transmettre quelque chose, où les familles constateront que c'est une planche de salut pour leur enfant, sans doute que, aussi, l'autorité deviendra de plus en plus légitime.
Je suis évidemment totalement d'accord avec ça, et c'est bien le sens de ce que je souhaite, hein, c'est-à-dire effectivement une transmission des savoirs réelles, denses, et qui permettent d'enclencher ce cercle vertueux. Il y a quelque chose de très positif dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette attente d'école dont vous venez de parler. Il faut la satisfaire, il faut la nourrir. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en parlant aussi de l'enchantement qui doit commencer dès le début de l'école primaire et qu'on doit maintenir ensuite, et on le maintient par les savoirs.
Alors, et en même temps, il faudrait que tous les professeurs soient intimement convaincus qu'ils exercent un métier intellectuel et que leur rôle est de transmettre le savoir. Je ne suis pas sûr que cette idée, qui semble évidente, soit aujourd'hui tellement répandue. Donc j'aimerais en tout cas que grâce à vous, Jean-Michel Blanquer, elle le soit toujours davantage.
Je partage évidemment totalement ce souhait. Vous savez, je me souviens quand j'étais recteur de Guyane, je visitais les professeurs dans les villages qui étaient le long des deux fleuves qui entourent la Guyane. Et la question que je posais toujours, parce qu'ils vivaient de façon isolée, donc un petit peu dans un écosystème particulier, c'était finalement qu'avait-il emporté comme livre dans ces endroits isolés. Et c'était très différent d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que certains n'emportaient pas de livres et ça me choquait. D'autres en emportaient beaucoup. Et je pense qu'effectivement, cela fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Si on veut réinstaller le professeur au centre de la cité scolaire, eh bien, il y a cette dimension intellectuelle qui est à valoriser. Et c'est aussi mon rôle que de valoriser cette dimension intellectuelle.
Vous voulez ajouter un tout petit mot?
Un mot de conclusion. J'ai commencé par une supplique. Je termine par une supplique. Monsieur le ministre, en tant que recteur de l'Académie de Créteil, vous avez été un des premiers à reconnaître justement l'intérêt de ce grec et de ce latin qui s'ouvrait au plus grand nombre. Ce travail s'est fait grâce à des professeurs qui étaient certifiés de lettres classiques. Ce concours a été supprimé. Rétablissez-le.
Il est possible que je vous donne raison.
Ben très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup, Augustin Dumière. Augustin Dumière, vous venez de publier chez Grasset Un petit fonctionnaire. Vos deux derniers livres, Jean-Michel Blanquer, c'est L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée, chez Odile Jacob, et L'école de la vie, également chez Odile Jacob. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La France face à l'immigration ». Mes invités seront Catherine Vitole de Venden et Stéphane Perrier. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bastien Varigaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.